Interview de Willy Benz, vendredi 16 novembre 2001. Alors, Willy Benz, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être parmi nous pour cette conférence sur l'origine de la Lune. Alors la Lune, on va le rappeler, hein, c'est notre satellite. C'est le seul qu'on ait d'ailleurs. Il est à 400 000 km de la Terre. Il fait un diamètre assez important, 3000 km. C'est seulement 4 fois plus petit que la Terre, c'est-à-dire que c'est relativement à la taille de la Terre, un énorme satellite. Il est à peine plus petit que la planète Mercure, donc on pourrait presque dire que c'est une planète. D'ailleurs, les géologues commencent à appeler planètes les satellites de Jupiter et de Saturne, qui sont à peu près, du moins pour les plus gros, de la taille de la Lune. Alors, on s'est beaucoup interrogé sur l'origine de la Lune, parce qu'on a remarqué que ces roches, sa composition en roches, était à peu près celle de la Terre. Alors, on va voir ce qu'il faut en penser, qu'est-ce qu'on a pu en déduire. On a fait plusieurs hypothèses. Hein. On a pensé d'abord que la Lune était capturée par la Terre. Ensuite, qu'elle s'est peut-être formée en même temps, donc Terre et Lune qui sont à peu près sœurs jumelles dans l'histoire du système solaire. Et enfin, on a pensé que peut-être la Lune serait un morceau de la Terre, donc la Lune serait fille de la Terre. Parmi toutes ces hypothèses, évidemment, il faut réunir les arguments. Et pour y répondre, Willy Benz, qui a beaucoup étudié ce problème depuis d'ailleurs un certain temps, on va dire un temps certain même. Alors, Willy Benz, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la Lune et à son origine?
Alors, je m'intéresse à l'origine des planètes en général, du système solaire en particulier, et de la Terre, bien sûr. Et de ce point de vue-là, il est difficile de considérer l'origine de la Terre sans y voir la Lune, le système Terre-Lune, en quelque sorte, qui est assez unique, comme vous l'avez dit, dans le système solaire. Et donc, si on s'intéresse à l'origine de la Terre, tout naturellement, on vient à se poser la question de l'origine de la Lune. D'ailleurs, cette question de l'origine de la Lune, comprendre l'origine de la Lune pour comprendre l'origine de la Terre, étaient en fait les motivations scientifiques du programme Apollo, il y a plus de 30 ans déjà. C'est ce qui a fait aller les gens sur la Lune, retourner des cailloux, des roches lunaires pour les analyser avec l'espoir de comprendre l'origine de la Terre.
Alors en fait, on s'est, pour étudier cette partie de l'astronomie, on va dire, en réalité, on a fait comme d'ailleurs dans beaucoup de phases de l'astronomie, on a essayé de comprendre le ciel à partir de ce qu'on a observé sur Terre finalement.
Alors voilà, c'est évidemment la Lune, c'est quelque chose qui était connu de tout temps. C'est l'objet le plus important la nuit dans le ciel. Donc évidemment, de tout temps, les gens ont vu la Lune, les gens se sont posé des questions, se sont demandé. On a commencé par en faire une déesse, évidemment. Par la suite, la science a pris le dessus, on s'est posé des questions. Et en fait, la première théorie sur l'origine de la Lune, c'est date du début du XXe siècle. C'est George Darwin, le fils du naturaliste, qui a proposé que la Terre était que la Lune, pardon, était une partie de la Terre, qui s'est séparée simplement parce que la Terre tournait tellement vite au départ, lors de sa formation, tournait tellement vite qu'elle était instable. Et en bout, c'est simplement séparé. On dit que peut-être l'océan Pacifique, c'est le trou qui reste de la séparation de la Lune avec la Terre, et s'est mis en orbite, et aujourd'hui, voilà la Lune.
D'ailleurs, je crois que ça s'appuyait, peut-être pas déjà à l'époque, mais plus tard, on a trouvé des arguments qui ont montré que la période de rotation de la Lune diminuait et par conséquent, elle devait s'éloigner. D'ailleurs, je crois qu'elle s'éloigne de la Terre toujours.
Effectivement, les effets de marée, les marées exercées par la Lune sur la Terre et la Terre sur la Lune font que petit à petit, la Terre ralentit et la Lune s'éloigne. Alors par conséquent, on peut essayer de faire des calculs et de remonter le temps, en quelque sorte, dans un ordinateur. Et puis on s'aperçoit que la Lune était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus près. Seulement, on n'arrive pas à remonter tout au début, parce que la Terre a beaucoup changé, les continents ont bougé, les océans ont changé, et tous ces effets de marée, toute cette dissipation d'énergie qui s'opère dans la Terre pour, en résultat du ralentissement de sa rotation, dépend de la géométrie de la Terre. Et donc on arrive à remonter un certain nombre d'années en arrière, mais pas jusqu'au début. Donc on ne sait pas d'où est partie en fait la Lune, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle est partie beaucoup plus près qu'elle n'est aujourd'hui.
Je crois qu'il y avait même une étude avec des nautiles qui ont montré que les logettes de nautiles prouvaient que la Lune avait ralenti. Hein. Donc, mais cette hypothèse de la Lune hein, comme un morceau de la Terre, donc fille de la Terre, est-ce que elle est actuellement, est-ce qu'on peut encore sérieusement la valider, enfin essayer de la valider?
Alors, il y a un gros problème avec cette théorie, c'est qu'il y a quelque chose dans la nature qu'on appelle le moment cinétique. Le moment cinétique, si vous voulez, c'est en quelque sorte une mesure de la quantité de rotation qui est dans un corps ou dans un système. Et cette grandeur-là, elle est conservée. Elle ne varie pas au cours du temps. Et en fait, pour que la Lune soit éjectée de la Terre à la suite de la rotation, ça demande que la quantité de moments cinétiques est beaucoup plus élevée que celle qu'on observe dans le système Terre-Lune aujourd'hui. 4 fois plus. Par conséquent, si on voulait faire la Lune à la suite d'une éjection de la Terre, il faudrait se poser la question où est passé tout ce moment cinétique qui, en principe, doit être conservé. Et ça, on n'a jamais réussi à l'expliquer, ce qui fait que cette théorie a petit été abandonnée.
Oui, c'est-à-dire en fait, le système Terre-Lune a perdu du moment cinétique depuis sa formation.
Voilà, un facteur 4 par rapport à ce qu'il aurait dû avoir si la Terre avait été effectivement instable rotationnellement et éjecte l'équivalent d'une Lune dans son jeune âge.
Donc, puisque cette hypothèse... Attendez, ce que je vais faire... J'ai un problème de mono. Je vais l'arrêter, je vais recommencer après. Bien, donc puisque cette hypothèse de la Terre, de la Lune, fille de la Terre, finalement n'a pas pu être retenue, on s'est tourné vers d'autres hypothèses. Quelles sont-elles ?
Alors, il y a une autre hypothèse, c'est simplement de se dire la Lune...
Donc, puisque cette hypothèse de la Lune, qui est un morceau de la Terre, n'a pas pu être retenue, on s'est tourné vers d'autres hypothèses. Quelles sont-elles ?
Alors, il y a une autre hypothèse, c'est celle de la formation simultanée, de la co-accrétion, si vous voulez bien. C'est la Lune et la Terre se forment comme des sœurs jumelles à partir du même nuage de matière interplanétaire. Et puis, on forme deux corps en même temps, si vous voulez. Le problème avec cette théorie, c'est que, simplement, on peut se poser la question pourquoi la Terre a hérité d'un noyau de fer et la Lune n'en a pas. Alors, il faut imaginer un mécanisme qui opère quelque part en orbite lors de la formation, qui va se mettre à trier les éléments. Le fer va à gauche, les roches vont à droite, forment la Lune, et puis on interdit au fer d'aller à droite. Et là, de nouveau, on a conceptuellement des problèmes à imaginer un mécanisme suffisamment efficace pour assurer ce tri directement lors de la formation.
Alors, on parle, je crois, dans un article que vous aviez écrit en 1987, on parle d'un tri chimique, on parle d'un processus d'accrétion différentielle, comme on va dire, par un système de chimique où les éléments seraient plutôt attirés par certains éléments plutôt que d'autres, et ce qui fait que d'un côté on aurait la Lune, la future Lune, de l'autre côté la future Terre.
Oui, alors disons, le mécanisme auquel on pense, c'est plutôt un tri aérodynamique, parce qu'il doit s'opérer avant que la planète soit terminée. C'est au moment de l'assemblage des morceaux qui vont devenir la planète. Le tri chimique s'opère par la suite, au moment où le fer, en fait, par le fait que sa densité est supérieure à celle des roches, s'écoule vers le milieu de la planète, ramassant avec lui les éléments qui aiment en quelque sorte se dissoudre dans le fer, qui sont solubles dans le fer, les éléments dits sidérophiles. Ceux-là, ils partent avec le fer et vont se mettre dans le noyau de la planète. Mais au départ, ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'il n'y a pas de fer. Le noyau de la Lune, on ne connaît pas exactement sa taille, mais on a une borne supérieure, c'est moins de 3 à 5% de la masse de la Lune. Par comparaison, le noyau de la Terre, c'est 32%. Donc vous voyez, il y a une très très grosse différence, donc ça veut dire que quelque part, on a empêché ce fer d'aller se joindre à la Lune, et donc le résultat, c'est un noyau anormalement petit.
Donc en fait, il y a beaucoup de critères qui plaident en défaveur de cette hypothèse, on va dire, qui viennent finalement, elle n'est pas tellement supportée, cette hypothèse de la Lune, sœur de la Terre.
Voilà, c'est des arguments géochimiques qui nous montrent que c'est difficile à réaliser, et puis les arguments physiques, simplement, de trouver un mécanisme de tri qui serait basé simplement sur la différence de densité, par exemple, entre des roches et du fer, des différences peut-être de propriétés chimiques de ces éléments, mais au moment de l'assemblage des matières.
Et je crois que cette hypothèse, en fait, avait été émise non pas pour avoir une de plus par rapport à celle qui existait, mais c'est parce qu'on est toujours intrigué par la taille relativement grande de la Lune, et on a plutôt l'impression de voir un système double, un peu comme Pluton et Charon, ou voilà.
ou tout simplement des étoiles doubles. Il y a beaucoup d'étoiles binaires où les masses, le rapport des masses entre les deux objets est relativement proche l'un de l'autre. Ils sont comparables. Effectivement, la Lune et la Terre sont une exception dans le système solaire. C'est un caractère unique, une propriété unique, à part Pluton et Charon. Mais toutes les autres lunes, en fait, sont beaucoup plus petites comparées à leur planète que la Lune comparée à la Terre.
Alors, il reste évidemment l'hypothèse que vous allez vous développer, parce que c'est celle que non seulement vous allez défendre, mais en plus qui est supportée par, je suppose, beaucoup plus de données, c'est celle d'un impact géant. Est-ce que vous voulez nous l'expliquer ?
Voilà, alors on s'imagine, d'ailleurs si on fait un petit retour en arrière au moment de la formation de la Terre, on s'imagine d'une manière générale que les planètes grandissent, croissent par accrétion, par collision, à la suite de collisions. Les collisions amènent les corps les uns vers les autres, une collision, et le gros objet avale, si vous voulez, ou accrète le petit. Et du coup, les planètes croissent par collision. Donc les collisions, ce n'est pas un effet extraordinaire dans les débuts du système solaire, c'est le pain quotidien, en fait. C'est par les mécanismes de collision que les planètes ont atteint la taille qu'elles ont aujourd'hui. On a commencé par des poussières de l'ordre du micron pour arriver à des planètes aussi grosses que la Terre, Vénus, etc., par collision. C'est vraiment une croissance collisionnelle de ces objets. Et on pense qu'une des collisions, parmi toutes les myriades de collisions qui ont donné naissance à la Terre, une des collisions qui avait la géométrie appropriée, qui est arrivée au bon moment dans l'histoire de la Terre, a donné naissance à la Lune simplement par le fait que les débris qui sont éjectés lors de la collision se mettent en orbite, et ces débris, si vous voulez, en orbite autour de la Terre, se réassemblent un petit peu comme au départ s'étaient assemblées les planètes autour du Soleil à partir d'un disque de roche, de matière. La même chose, les débris qui ont suivi la collision se sont mis en orbite autour de la Lune, et de ces débris, une Lune est née relativement rapidement, si on en croit les modèles numériques. Mais voilà l'idée préférentielle. En fait, il s'agit d'une version d'une troisième théorie antérieure, c'était celle de la capture, où on s'imaginait qu'on arrivait à capturer la Lune intacte, telle qu'elle. La Lune était un corps perdu dans le système solaire, quelque part, passe assez près de la Terre, trouve l'environnement agréable et décide de rester dans les environs de la Terre. Le problème avec cette théorie, on n'est jamais arrivé à régler, c'est comment est-ce qu'on freine cet objet. Comment, vous savez, si on va avec une sonde ou un vaisseau spatial visiter une autre planète, comme on a été sur la Lune, sur Jupiter, etc., quand on arrive là-bas, il faut freiner. On allume les rétrofusées, on freine pour s'arrêter. Sinon, on passe tout droit. Eh bien, un objet qui se promène dans le système solaire, qui passe près de la Terre, il n'a pas de fusée, comment est-ce qu'il freine ? Et le problème, c'est comment est-ce qu'on arrive à freiner un objet de la taille de la Lune lorsqu'il passe près de la Terre. De nouveau, c'est des effets de marée qui peuvent dissiper l'énergie, mais le temps est très court et c'est extrêmement difficile. Par conséquent, cette théorie, si vous voulez, a évolué un peu dans la théorie de la collision, où là, le freinage est évident, on a une collision, il n'y a rien de plus efficace pour en fait freiner le corps. Et ensuite, bon, il s'agissait de prouver ou de démontrer qu'il est possible de réaccumuler les débris, parce qu'évidemment, dans la capture, dans l'hypothèse où on freine le corps, on a un corps intact, on n'a rien à reconstruire, tandis que dans l'hypothèse de la collision, ben, il faut réassembler les débris, il faut faire une lune de nouveau, un corps. Et évidemment, alors ça se fait, il y a des pertes, on n'imagine pas que c'est un corps de la taille de la Lune qui a percuté la Terre, il faut un corps en gros 10 fois plus grand, la taille de Mars, c'est un peu la taille minimum. Donc il faut s'imaginer, cette collision, c'est quelque chose d'extraordinaire au niveau de l'histoire de la Terre.
On peut rappeler que Mars fait 7000 km de diamètre, donc c'est à peu près un objet qui aurait la moitié de la taille de la Terre. C'est assez gros.
Ça représente la moitié en masse, ça fait à peu près 14%, 13-14% de la masse de la Terre. Donc c'est vraiment, vraiment un gros objet. C'est une catastrophe pour la Terre, seulement, disons, faut revenir toujours, se mettre dans l'ambiance du moment. La Terre croît par collision, ce n'est qu'une collision parmi d'autres. Il s'avère que celle-là, elle est grosse. Il n'y a probablement pas eu des millions de grosses collisions comme ça, mais on pense qu'il y en a eu plusieurs. Quelques-unes de ces collisions, par exemple, peuvent détruire une planète. On pense que Mercure, par exemple, pourrait avoir été détruite plusieurs fois avant de se retrouver à l'endroit et avec la taille que la planète a aujourd'hui. La Terre étant suffisamment grosse, c'était peut-être plus protégé d'un impact catastrophique où on détruit la Terre. Mais dans l'ensemble, ben voilà, on a réussi, enfin la nature a réussi à faire une lune à l'aide de quelque chose de très catastrophique.
Alors ces impacts géants, on peut rappeler que vous aviez évoqué tout à l'heure le pain quotidien, qui était les impacts que subissaient les planètes il y a plus de 4 milliards d'années, hein, lorsqu'il y avait justement beaucoup de débris sur les orbites des planètes. Et au début, ces impacts se font entre objets qui sont à peu près sur des orbites parallèles. Et plus ils se cognent, plus ils s'éloignent. Et quand ils se recognent, c'est peut-être là l'origine de ces impacts géants. Ou est-ce qu'il y a des objets qui croisent carrément les orbites, qui viennent de n'importe où?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'au moment où les objets acquièrent une certaine masse, alors ils peuvent se perturber les uns les autres simplement par la gravité. Et la distance à laquelle ils sont capables de perturber les objets devient de plus en plus grande. Par exemple, dans le système solaire aujourd'hui, Jupiter est capable de perturber les objets dans la ceinture des astéroïdes. Donc des planètes de grosse masse arrivent à perturber d'autres objets qui ne sont pas forcément juste à côté, mais à des distances relativement grandes. Alors au moment où les planètes, si vous voulez, avaient avalé tous les objets qui se trouvaient dans un voisinage immédiat, en espèce d'aspirateur qui a nettoyé vraiment une zone autour du Soleil qui correspond à l'orbite de l'objet, ces objets ont atteint une masse suffisante pour commencer à perturber les objets qui étaient plus loin. Et le résultat, c'est qu'au lieu d'aller en orbite circulaire autour du Soleil, l'orbite devient excentrique, c'est-à-dire qu'elle est déformée, elle est allongée. Donc, plus l'orbite est excentrique, plus elle balaye en quelque sorte une distance importante autour du Soleil. Et en balayant ça, forcément, il y a des collisions parce qu'on balaye la même région. Il y a deux objets, balayent la même région. Et les probabilités de collision deviennent importantes. Plus les régions communes sont importantes, les orbites se croisent. C'est là l'idée, c'est que ces perturbations gravitationnelles permettent aux orbites de se croiser et du coup rendent possibles les collisions. Et plus les objets sont gros, plus ces perturbations sont à longue distance et plus les chances de se croiser sont importantes. Le corollaire, c'est que plus ces perturbations sont grandes, plus les vitesses relatives sont grandes. Évidemment, si on peut imaginer deux objets qui tournent relativement près de l'autre sur des orbites presque parallèles, leur vitesse relative est relativement petite. La collision est, entre guillemets, douce. Par contre, si un objet qui vient de très loin sur une orbite très excentrique, qui arrive comme ça à toute allure, les vitesses relatives sont grandes. Donc, en quelque sorte, c'est une espèce de jeu dangereux qu'on joue là, parce qu'on marche un petit peu au bord du gouffre, soit les vitesses relatives sont trop faibles, tout tourne sur des orbites circulaires, et à ce moment-là, ben, il n'y a pas de croissance des planètes, parce qu'il n'y a pas de collision, il n'y a pas de planète, alors ça ne va pas, ou bien elles sont sur des orbites très excentriques, et à ce moment-là, les collisions sont tellement violentes qu'on détruit tout ce qu'on a construit. Donc il y a une espèce de marche délicate ici, et il s'avère que la nature, la physique, est faite que la nature choisit ce chemin au bord des deux précipices, si vous voulez, et qu'on est arrivé à choisir ce chemin d'une manière naturelle. En fait, c'est les lois de la physique qui l'ont trouvé, enfin, qui trouvent ce chemin.
Alors c'est donc cette hypothèse-là qu'on retient actuellement.
Alors voilà, disons, elle n'est pas... Je dirais qu'il y a encore des points à éclaircir. Par exemple, les questions qu'on débat aujourd'hui, c'est exactement la taille de la Terre au moment de l'impact. Est-ce que la Terre était 99% formée? Est-ce qu'elle avait pratiquement toute sa masse qu'elle a aujourd'hui? Ou est-ce que la Terre n'était qu'à moitié formée, par exemple? Quel était le statut évolutif de la Terre au moment de la collision? Ça, c'est une des questions. La deuxième question, c'est l'origine du projectile. D'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient de la banlieue immédiate ou est-ce qu'il vient de plus loin? Parce que vous avez soulevé au début qu'il y a des ressemblances frappantes dans la composition chimique entre la Lune et le manteau terrestre. Et la question, par conséquent, c'est comment ça se fait que cette ressemblance, qu'il y ait cette ressemblance, si la Lune, c'est des débris d'un projectile, ça voudrait dire que ce projectile doit s'être formé relativement dans les environs de la Terre, sinon sa composition chimique serait très différente. On sait par exemple que les rapports isotopiques de l'oxygène sur Mars sont différents de ceux sur Terre. Par contre, ils sont identiques à la Lune. Donc on voit qu'il y a un puzzle ici, qu'il faut essayer de concilier toutes les pièces. Et la théorie, c'est pour le moment, cette théorie de l'impact géant, c'est certainement celle qui est capable d'expliquer le plus d'observations, mais il y a encore des points à débattre et qu'il y a à mettre au point. Par contre, je dirais que les choses progressent résolument.
Donc, impact géant avec un objet qui n'est finalement pas trop loin de la Terre. Alors maintenant, ma question, je change totalement de paysage dans ma question. C'est vous qui êtes physicien, hein, qui êtes professeur de physique à Berne. Vous avez travaillé d'ailleurs avec le professeur Mayer, qui a découvert d'ailleurs 51 Pégase à l'Observatoire de Haute-Provence. Vous avez travaillé aux États-Unis. Dans l'article de 1987, vous l'aviez écrit lorsque vous étiez aux États-Unis. Vous pouvez nous raconter un peu votre cheminement. D'abord, dans ma question, il y a deux questions. Quel est un peu votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené, vous, physicien, à vous intéresser à la Lune?
Alors, j'ai fait mes études donc en Suisse, à Neuchâtel. Ensuite, j'ai fait ma thèse à Genève, à l'Observatoire de Genève, avec le professeur Mayer. À l'époque, il ne s'agissait pas de planètes, on s'intéressait à la rotation des étoiles. Et on a beaucoup mesuré, toujours à l'Observatoire de Haute-Provence, avec l'appareil qu'il avait construit avant celui qui a permis de découvrir les planètes. La question qu'on s'est toujours posée avec lui, c'était d'un petit peu de savoir quelle était l'origine de la rotation stellaire. Et on en vient tout naturellement à se poser la question de la formation des étoiles. Et au moment où on se pose la question de la formation des étoiles, vient la question du cortège planétaire qui suit la formation des étoiles. Donc voilà un petit peu l'origine de mon intérêt pour la formation de systèmes planétaires. Et ensuite, une fois que j'ai eu fini ma thèse, je suis parti aux États-Unis, où en fait je suis resté 13 ans avant de revenir à Berne, en Suisse, à l'Institut de physique.
Vous étiez resté à Los Alamos, hein, l'observatoire qui est situé où?
C'est au Nouveau-Mexique, donc si vous voulez, c'est assez au sud des États-Unis, à l'ouest, entre le Mexique et puis le Colorado. Donc c'est au sud-ouest des États-Unis.
Vous avez été dans le Far West et vous êtes venu chez nous à Nantes, dans l'ouest français. Eh bien, nous sommes heureux de vous accueillir et c'est avec intérêt que nous allons entendre cette conférence qui est un peu originale hein, dans notre cycle. Bien que la Lune soit un objet familier, il y a encore beaucoup de choses à découvrir à propos de la Lune. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Oui, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se disait, mais comment peut-on encore s'intéresser à la Lune aujourd'hui alors qu'on voit des galaxies ou des quasars à l'autre bout de l'univers? Eh bien, l'origine de la Lune peut-être détient la clé de l'explication de l'origine de la Terre, qui, je pense, même si c'est un peu égocentrique, mais nous intéresse tous. Et donc peut-être que de comprendre l'origine de la Lune, ça va nous donner la clé qui va nous permettre de savoir comment se forment des planètes comme la Terre. Et peut-être, bien sûr, la question fondamentale qui se cache là derrière, c'est la question de est-ce qu'il y a d'autres Terres dans l'univers? Et peut-être qu'on arrivera à répondre à cette question si on arrive à comprendre comment la nôtre s'est formée.
Voilà, ben ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Willy Benz. Merci.
Je vous en prie, le plaisir est pour moi.